Alors, Galates chapitre 5, versets 16 à 20. Ben, on va voir jusqu'où on va, mais dans l'idéal, ce serait jusqu'à 26. Alors, j'y vais. Je dis cependant à la manifestation d'un souffle, marchez. Et je dis qu'un désir en fureur de chair, vous ne veniez pas d'achever. Car la chair désire en fureur contre le souffle. Le cependant souffle contre la chair. Ces choses-ci, cependant, ils se couchent contre à la manifestation de l'un, de l'une et de l'autre. Afin que les choses, le cas échéant que vous ne vouliez pas, ces choses-ci vous fassiez. Si cependant à la manifestation d'un souffle vous êtes conduit, vous n'êtes pas sous une loi. L'humiliant cependant est les travaux de la chair, lequel des quelconques est adultère, pornation, prostitution, c'est-à-dire impureté, luxure, idolâtrie, pharmacie, haine, discorde, zèle, humeur, rivalité, dissension, hérésie, envie, meurtre, ivresse, festin, les choses semblables à celles-ci. Desquelles je vous prédis, selon comme aussi je prédis, en ce que ceux de telles choses pratiquant n'hériteront pas royauté d'un Dieu. Le cependant fruit du souffle est amour, joie, paix, distance de fureur, utilité, bonté, croyance, douceur, force intérieure. Contre les telles choses, il n'est pas une loi. Ce cependant de loin, la chair est le crucifière avec les passions de souffrance et les désirs en fureur. Si nous vivions à la manifestation d'un souffle, à la manifestation d'un souffle aussi que nous avancions en ligne, que nous ne devenions pas vides de gloire les uns les autres, s'appelant au devant, enviant les uns les autres. Alors, je lis verset 16. Je dis cependant à la manifestation d'un souffle, marchez. Et je dis qu'un désir en fureur de chair, vous ne veniez pas d'achever. Donc là, de quoi parle Paul ? En fait, il rebondit sur ce qu'il a dit avant, au verset 13, jusqu'au verset 15. En gros, verset 13 à 15, il dit, voilà, on a été appelé à la liberté, mais ne profitez pas de cette liberté pour faire n'importe quoi. Au contraire, faites le bien, grosso modo. C'est un peu cette pensée qu'on a dans le paragraphe du verset 13 au 15. Et du coup, il dit, marchez par le souffle, sous-entendu pas par la chair, parce que si vous marchez par le souffle, il nous dit quoi ? Un désir en fureur de chair, vous ne veniez pas d'achever. Donc, c'est-à-dire que ce sera pas... On aura une certaine assurance en marchant par le souffle que voilà, on est bien dans le souffle et que c'est vraiment quelque chose de divin, en ce que c'est pas quelque chose de charnel qui vient nous donner l'envie de marcher par le souffle. Quand il dit qu'un désir en fureur de chair, vous ne venez pas d'achever. Voilà. C'est pas par un désir en fureur de chair que on marche par le souffle, qu'on a cette volonté de marcher par le souffle. Et il dit car la chair désire en fureur contre le souffle. Voilà. Donc, on comprend mieux pourquoi. Et ensuite, il dit le souffle contre la chair. C'est intéressant. Donc, on voit que le souffle désire des choses contre la chair. Hein. Le souffle, il n'est pas là à dire amen à tout. C'est intéressant. On a l'impression que là, il y a une espèce d'attitude un peu offensive. Offensive dans le sens de l'attaque, de désirer quelque chose contre ici une nature, la nature charnelle, si je peux appeler ça comme ça, la chair. Après, il nous dit, ces choses-ci, c'est soit les désirs, d'accord, contre le souffle pour la chair et contre la chair pour le souffle, ou alors les natures, c'est-à-dire le souffle et la chair. Ça dépend, c'est à voir sur l'interprétation. Donc ces choses-ci, cependant, ils se couchent contre la manifestation de l'une de l'autre. Donc on voit qu'il y a une dépendance, d'une certaine manière, entre l'une et l'autre. Afin que les choses, le cas échéant que vous ne vouliez pas, ces choses-ci vous fassiez. Voilà. Et du coup, tout ça, ce verset 17, c'est dans le car le chair, enfin c'est dans le sens de car la chair désire en fureur. Et ce car la chair désire en fureur contre le souffle, c'est censé nous faire comprendre la nécessité de marcher par l'esprit et pas par la chair. Parce que justement, si on marche par la chair, on marche par cette chose-là qui désire contre l'esprit. C'est-à-dire qu'on marche dans quelque chose qui est finalement anti-Dieu, en fait, anti-Saint-Esprit, anti-Christ, d'une certaine manière, anti-onction. Donc, si on marche dans cette chair-là, on arrive finalement à... enfin, on peut vouloir... Enfin, on peut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, finalement, puisque notre esprit, notre Saint-Esprit, il est là, il est en nous, et on a aussi notre chair. Et donc, si on marche par la chair, finalement, c'est-à-dire qu'on on suit les directives de notre chair, les envies de nos chairs, etc., mais ensuite, en fait, on suit ses désirs à notre chair. Or, ces désirs sont contraires à l'esprit, c'est-à-dire à notre, à ce qu'on ressent en nous-mêmes, si je puis dire. Et donc, il y a une espèce de confrontation, de combat, de différence entre nous, une division entre nous, si je puis dire. Et donc, finalement, on en arrive à ne pas faire ce qu'on... Enfin, à faire ce qu'on ne veut pas faire. Hein, fin du verset 17, afin que les choses de quelque chose que vous ne vouliez pas, ces choses, vous fassiez. Ces choses, si vous fassiez. Et c'est ce que Paul décrit en Romains chapitre 7, verset 21 à 25. Et même, je crois, à partir du verset 15 ou 19, hein, en Romains 7. Donc, voilà. Maintenant, ensuite, on a, si cependant, à la manifestation d'un sou, vous êtes conduit, donc voilà, là, il nous a dit, voilà, si tu marches par la chair, eh ben, voilà, tu vas pas faire ce que tu... Enfin, tu vas faire ce que tu veux pas, et ça va être... tu vas faire des trucs, voilà. Enfin, tu vas pas être toi, grosso modo. Parce que, justement, tu vas faire des choses que tu veux pas. Donc, il y a une espèce de dualité en toi. Mais, si, cependant, si en revanche... à la manifestation d'un souffle, tu es conduit, donc tu es conduit par un souffle et non pas par la chair, alors tu n'es pas sous une loi. Alors, là, pourquoi il dit une loi, à quoi il pourrait faire référence ? Il dit une loi, ce n'est pas la loi, c'est une loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, franchement, moi, ce que je comprends, c'est vraiment, je trouve que ça a l'air vraiment d'une vérité générale, voilà. Ça a l'air d'être une vérité générale. Quand à la manifestation d'un souffle, tu es conduit, tu n'es pas sous une loi. Voilà. Là, la première loi à laquelle on pourrait penser, c'est la loi de Romains 7. Hein, quand il dit je trouve cette loi en moi, je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà. Romains 7, 21. Hein, il dit clairement que c'est une loi. Et ça va très bien, parfaitement, si je puis dire, avec le contexte. Et justement, quand on marche par la chair, on est sous cette loi-là. Et du coup, au verset 18, si en revanche on est à la manifestation d'un souffle conduit, alors on n'est pas sous cette loi-là. D'accord ? Logiquement, selon tout le raisonnement logique du verset 16 à 18. Et c'est la raison de pourquoi il nous dit justement de marcher par le souffle, afin de ne pas être soumis aux désirs de la chair, grosso modo. De ne pas achever les désirs de la chair, comme on est en verset 16. Donc ça, c'est la première loi à laquelle on n'est pas, sur laquelle on n'est pas quand on marche par l'esprit, la loi de ce corps de mort, si je puis reprendre l'expression de Romains 7. Qui me délivrera de ce corps de mort, n'est-ce pas ? Je fais ce que je veux pas, je le fais. Enfin, ce genre de truc. D'accord ? Voilà. Quand on marche par l'esprit, on n'est pas sous cette loi-là, grosso modo, de ce que je comprends. La deuxième loi, c'est qu'on pourrait voir, c'est on n'est pas sous la loi d'un salut par les œuvres. Une loi qui est fausse, qui nous dirait qu'il faudrait faire de bonnes œuvres pour aller au paradis, c'est faux. C'est une loi trompeuse, c'est une loi de mensonge. On peut voir que en Jean 8, 32, 36, le Seigneur dit, voilà, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Et en 2 Corinthiens 3, 17, il nous dit que voilà, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, avec esprit, est synonyme, avec l'esprit, on a la liberté et la liberté s'obtient, si je puis dire, par l'affranchissement que fait la vérité, en fait. Donc, en étant conduit par l'esprit, on est conduit par la liberté, si je puis dire. On est conduit par la vérité, hein, si je puis dire. Et donc, on n'est pas sous le mensonge, d'accord ? sous la loi de mensonge qui va nous dire il faut que tu travailles pour aller au paradis. On n'est pas sous cette loi-là. Voilà, de plus, le fait d'être conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit, par le souffle, par un souffle, ça, on pourrait voir ici une référence à Jean 3,8 qui nous dit que voilà, toute personne née d'en haut, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas, où il va. C'est un peu comme le souffle, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Voilà. Et là, on parle un peu de ça, d'être conduit par l'Esprit, c'est-à-dire aller par le souffle, aller là où le souffle nous mène, grosso modo. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc ça, c'est la deuxième loi, le fait que quand on est conduit par l'Esprit, par le souffle, par le Saint-Esprit, par Dieu, logiquement, on ne va pas être dominé ou conduit par le mensonge. Voilà, tout simplement. Notamment donc la loi satanique qui voudrait nous dire que nous faire croire plutôt qu'on aurait à travailler pour avoir le paradis. Voilà. La deuxième chose, c'est que en étant conduit par le souffle, par le Saint-Esprit, si je puis dire, bien que c'est vrai que là, au verset 18, il dit un souffle, mais je pense qu'en vérité, on pourrait comprendre si cependant la manifestation de souffle ou à une manifestation de souffle, ce que je préférerais peut-être, enfin, ce qui m'arrangerait peut-être plus pour mon interprétation. Mais bon, je vais continuer parce que la famille 35, elle a peut-être le Saint-Esprit. Enfin bon, bref, je vais continuer. Donc, en étant conduit par le souffle, logiquement, enfin si on considère que c'est le Saint-Esprit, en étant conduit par le Saint-Esprit, on ne peut pas être mieux conduit finalement, hein, n'est-ce pas? Et par conséquent, on ne peut pas se faire condamner par quelqu'un, hein, qui que ce soit, ni même par une loi. Hein. Si je fais exactement ce que Dieu me dit, si je vais là où Dieu me dit que je dois aller, si je fais exactement ce que Dieu me dit, qui va me condamner, hein? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Donc, aucune loi ne pourra venir me condamner. En cela, je ne suis pas sous une loi, sous n'importe quelle loi. Je ne suis sous aucune condamnation, finalement, à cela. Et on peut faire un rapprochement avec Romains chapitre 8, verset 1, qui nous dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ, ce ne sont pas... il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Voilà. Voilà. Romains 8, 1. Et puis, finalement, voilà. Donc, je pense que on n'est pas sous une loi. On peut le comprendre comme ça. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'aussi, le fait d'être conduit par le Saint-Esprit, ça reste un choix. C'est le chrétien, dans sa vie de tous les jours, il a le choix, grosso modo, de faire le mal, de pécher ou de ne pas pécher. Il peut se dire, sous l'influence, par exemple, de mauvaises personnes, je vais faire comme eux. Je vais choisir d'aller fumer une cigarette, comme les collègues, par exemple. Il a ce choix. Il a cette possibilité qui s'offre à lui. Ça ne veut pas dire qu'il est attiré par ça, que ça l'intéresse, qu'il l'aime, etc. Mais, voilà, il voit ça. Il voit qu'il a la possibilité, etc., etc. Donc, le fait d'être conduit par le Saint-Esprit, ça reste un choix. C'est pas une obligation. Enfin, c'est pas un esclavage. C'est pas Dieu ne nous force pas à l'aimer. C'est un choix qui nous offre, en fait. Comme il met dans le Deutéronome, choisis la vie, choisis la mort. Enfin, choisis la vie ou choisis la mort. Et après, il nous dit choisis la vie, en vrai. Mais, grosso modo. Mais voilà. Donc, là encore, là-dessus, on n'est pas sous une loi. En ce qu'on a choisi de marcher à la manifestation d'un souffle. Parce que si on ne choisissait pas, Paul n'aurait pas eu besoin d'écrire le verset 16 « Je dis cependant à la manifestation d'un souffle, marchez ». Non, si ça se faisait automatiquement, il n'y aurait pas eu besoin d'écrire ça. Mais parce que ça ne se faisait pas automatiquement et qu'on a un rôle à jouer, qu'on a un choix à faire entre le souffle et la chair, Paul nous dit « Voilà, marchez par le souffle » parce que ce sera comme ça, finalement, qu'on sera vraiment un. Parce que si on n'est pas à marcher par le souffle, eh bien, on va avoir une dualité en nous entre la chair et l'esprit. Voilà. Si on commence à vivifier la chair qu'on a crucifiée à notre baptême, eh bien, on va avoir un problème parce que notre esprit, c'est ce qui nous vivifie. Donc, si on a deux choses qui vivent en nous, il risque d'avoir des batailles, des combats. Hein, voilà. Voilà un peu jusqu'au verset 18. Après, il nous met l'humilant cependant et les travaux de la chair, lesquels des quelconques et adultères, pornation, impureté, luxure, idolâtrie, pharmacie, discorde, zèle, humeur, rivalité, dissension, irasie, envie, meurtre, ivresse, festin, et les choses semblables à celles-ci, desquelles je vous prédis, sont comme aussi je prédis, en ce que ceux de telles choses pratiquant n'hériteront pas royauté d'un Dieu. Donc là, voilà. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il met un cependant au verset 19 ? Bah alors, pour deux raisons, je pourrais dire. Première raison, ce serait peut-être pour casser un peu, pour faire comme un saut de ligne avec le reste de ce qu'il a dit juste avant. Voilà. Pour faire une petite séparation, on va dire. Hein, pour dire, voilà, j'ai dit ça en haut, maintenant je vais parler, je vais dire d'autres choses un peu. Voilà. Cependant, j'aimerais. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Et l'autre chose qu'on peut dire, c'est que cependant serait rattaché au luminant. En ce que ça pourrait paraître contradictoire que les travaux de la chair soient lumineux, soient luminants, qu'on puisse vraiment voir de la lumière jaillir de ces travaux. On pourrait se dire, est-ce que ce ne serait pas plutôt des ténèbres qu'on devrait voir de ces travaux-là, puisque la chair désire contre l'esprit, que les fruits de la chair, de ce qu'on lit, ne sont pas des bonnes choses, etc. Donc comment ces choses-là pourraient-elles être lumineuses, luminantes ? Voilà, ça pourrait paraître un peu contradictoire, et de là, on pourrait rattacher ce cependant à ce luminant. Alors, je dirais que c'est deux explications de pourquoi est-ce qu'il y a ce cependant. Donc là, il nous donne une liste des fruits, si je puis dire, de la chair, des travaux de la chair. Ce qui va un peu pour, finalement, pour... ce qui est un peu, comment dire, pour... ce qui peut créer en nous, en fait, un espèce de je dirais peut-être pas de dégoût, mais de perte de motivation. Non, ça aussi, c'est pas forcément la bonne expression, mais ça peut ne pas nous donner envie, finalement, tout simplement, de marcher par la chair. Quand on voit prostitution, impureté, luxure, idolâtrie, etc., on nous dit, est-ce que j'ai envie de rentrer dans ces activités-là? Bon, en général, on n'a pas trop envie de rentrer là-dedans, n'est-ce pas? Discorde, haine, voilà, on n'a pas envie d'être des idolâtres, tout ça, bon, voilà. Envie, meurtre, verset 21, voilà. Après, il rajoute, fin du verset 21, ceux de telles choses pratiquant n'hériteront pas la royauté d'un Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on veut, ne pas hériter de la royauté d'un Dieu? Non, nous on veut hériter de la royauté d'un Dieu, à savoir du Dieu, de Dieu, en fait. Donc, on a envie, ça nous donne envie, en fait, le fait de lire ça, de ne pas marcher selon la chair, hein, clairement. De ne pas choisir la mort, mais de choisir la vie, de faire les bons choix, de faire la volonté de Dieu, de marcher par le souffle, de sorte à, finalement, hériter la royauté d'un Dieu. Après, il y a le cependant fruit du souffle et amour, joie, paix, distance de fureur, utilité, bonté, croyance, douceur, force intérieure. Contre de telles choses, il n'est pas une loi. Et là, ça rejoint, finalement, ce que je disais un peu pour le verset 18, quand je disais, voilà, quand on est conduit par le Saint-Esprit, par le souffle, eh bien, finalement, personne ne peut nous condamner, finalement, n'est-ce pas ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Voilà. Qui pourrait nous condamner ? Voilà. Donc, il dit bien, contre les telles choses, il n'est pas une loi contre les fruits du souffle. Voilà. Et donc là, quand on voit en plus les fruits du souffle, ça peut nous donner envie, je pense, de marcher dans ce souffle. Voilà, quand on voit croyance, qui n'a pas envie d'avoir une bonne foi, une grande foi, voilà, la paix, l'amour, la joie, c'est de belles vertus, de bonnes vertus, des vertus agréables. C'est agréable d'être en paix, d'être dans la joie, c'est agréable tout ça, et d'être rempli d'amour aussi, c'est bien sûr agréable. Enfin bref, voilà. Petite note. Avant de passer au verset 24, peut-être, parce que je devrais aller là, il ne me reste plus beaucoup de temps, n'est-ce pas ? Si cependant, verset 18, si cependant la manifestation d'un souffle vous êtes conduit, vous n'êtes pas sous une loi, certains pourraient peut-être vouloir penser que le sous une loi ici pourrait faire référence en mode « Oh, ça veut dire que on n'est pas sous une loi, par exemple, de nous aimer les uns les autres, ou des choses comme ça, ou des lois... » de bonne œuvre, en fait, en mode fais ça, comme on voit dans le Nouveau Testament, fais ça parce que il faut faire ça parce que c'est bien en fait, hein, comme s'aimer les uns les autres ou simplement marcher à la manifestation d'un souffle. Mais ça, c'est ça va contre le Saint-Esprit en fait, parce que qui nous dit de nous aimer les uns les autres, c'est le souffle. Donc si on est conduit par le souffle, eh ben on va pas marcher contre ce que le souffle nous dit. Si le souffle nous dit fais ça, on va faire ça. Et c'est ça en fait, être conduit par le souffle, n'est-ce pas ? Marcher par le souffle, c'est marcher dans ses voies, marcher dans ce qu'il nous demande de marcher, marcher là où il nous demande de marcher. Et où est-ce qu'il nous demande de marcher ? Bah, le texte nous le dit en fait. C'est à travers notamment le texte, à travers la Bible, qu'on peut être conduit là où Dieu veut nous emmener, là où le souffle veut nous emmener, n'est-ce pas ? Donc, marcher, être conduit par le souffle, je dirais que c'est s'aligner, s'accorder avec la direction que le texte biblique veut nous faire emprunter. Si le texte biblique nous dit « aime ton frère, aime ton prochain comme toi-même », c'est ça, marcher par le Saint-Esprit, c'est mettre en pratique ça, c'est marcher dans ce commandement-là. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? C'est en se dirigeant selon ta parole, la parole de Dieu. Voilà. Est-ce que le Saint-Esprit va, va changer, j'ai mal commencé ce que je voulais dire. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà. Donc c'est pas, ce verset 18, c'est pas là à nous dire, oh, j'ai aucun commandement. Il est pas là pour nous faire devenir des sans-loi. Les sans-loi, c'est quelque chose qui est condamné par la Bible, par l'Écriture, des personnes qui sont sans-loi, anomos, des ouvriers d'iniquité, tout ça. La Bible nous parle en mauvais termes, n'est-ce pas, de ces gens-là. Donc, là, le verset 18, c'est pas en train, elle n'est pas en train de nous dire « Oh, devenez des sans-loi, vous n'avez pas de loi, vous n'avez pas besoin de loi, je sais pas. » Non, 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 c'est pas ça. C'est le « Vous n'êtes pas sous une loi », c'est en comprenant, en fait, tout ce que j'ai pu dire, c'est en prenant c'est-à-dire en ne faisant pas abstraction du reste de la Bible. C'est-à-dire, si la Bible, elle nous parle de plein d'autres choses, ce qui est le cas, eh bien, il faut prendre ça en considération. C'est juste de la logique, du bon sens et de l'honnêteté. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, le texte biblique nous invite en premier à aimer Dieu, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais il nous invite aussi à, et ça, c'est je vais faire une petite pause juste. Mais il nous invite aussi, par exemple, à travailler. Paul dit dans 1 ou 2 Thessaloniciens, il me semble, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, par exemple. Voilà, il nous invite à différentes choses qui ne sont pas forcément explicitement, clairement, directement, forcément toujours liées à l'amour, d'accord ? Par exemple, le fait de travailler, en quoi est-ce que ça va être lié au fait d'aimer mon prochain, tu vois. C'est pas forcément clair comme de l'eau de roche. Ok ? Voilà. Mais c'est quelque chose auquel on est appelé, travailler. Donc, marcher par le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit, c'est aussi ça. C'est aussi aller travailler, manger à la sueur de son front, etc., par exemple. Donc, il y a différentes choses dans la Bible, d'accord ? Différents commandements, en fait, qui vont nous permettre finalement d'une certaine manière de marcher par l'esprit. Voilà, c'est ça finalement, n'est-ce pas ? Parce que le texte biblique, c'est le texte, si je puis dire, du Saint-Esprit. Comme il est dit, je ne sais plus où dans l'Écriture, le Saint-Esprit a dit, n'est-ce pas ? Ou c'est poussé par l'esprit que les prophètes parlaient, par exemple, n'est-ce pas ? Donc voilà.
Et j'ajouterais juste du coup par rapport à ce verset. Ce verset 18, quand il dit « Vous n'êtes pas sous une loi », que s'il avait voulu parler de la Torah, là spécifiquement, eh bien, il aurait dit la loi, tout simplement, n'est-ce pas ? On aurait su à quoi vraiment il faisait référence, en tout cas beaucoup plus facilement que là, une loi. Alors peut-être que certains pourraient dire « Ah, mais la loi, c'est inclus dans une loi ». Mais dans ce cas-là, si vraiment il aurait voulu nous faire comprendre la Torah, il aurait fait comprendre, dans ce cas, oui, mais une loi, à travers le contexte, n'est-ce pas ? Mais le contexte ne parle pas de la loi, grosso modo, n'est-ce pas ? Il parle du fait de marcher par l'esprit. et pas par la chair. Il n'est pas là dans le contexte à dire la loi ne sert à rien ou je sais pas quoi ou c'est terminé ou non. C'est pas ça le contexte. Le contexte c'est marcher par l'esprit, parce que si vous marchez par la chair, eh ben vous allez faire ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez pas faire vous allez le faire, etc. Vous serez sous une loi charnelle, une loi du corps de mort, de Romains 7. Mais si vous marchez par l'esprit, eh ben, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent par l'esprit. En Romains 8:1. Voilà, ce qu'il met au verset 22. Contre les telles choses, il n'y a pas une loi. Voilà. Et même en voulant garder la Torah, on n'est pas sous la Torah, si je puis dire. Enfin, on n'est pas sous une loi, sous la loi, par conséquent, si on peut dire. Pourquoi ? Parce que même si on veut garder la Torah, c'est sur la base d'un choix et pas sur la base d'une loi. C'est-à-dire que je garde ça parce que j'ai choisi ça, pas parce qu'il y a une loi qui m'obligerait ça, mais parce que j'ai choisi. Donc en ça, on n'est pas sous une loi, sous la loi. On n'est pas sous une loi qui nous oblige à garder la Torah. Donc, même en voulant garder la Torah, on n'est pas sous une loi. On est sous un choix. Tout simplement. Tout simplement. Et après, du coup, verset 24, on a ce cependant de loin la chair et le crucifier avec les passions de souffrance et les désirs en fureur. Et donc là, je veux dire, en gros, là, du verset 13 au verset 23, il disait grosso modo, ben voilà, marcher par l'esprit, pas par la chair, etc. Après, au verset 24, il dit, mais ceux de loin, ben, la chair et la crucifière avec les passions de souffrance et les enfers. C'est entendu que je vous ai dit tout ça là, du verset 13 au verset 23. Mais en vérité, si vous êtes de loin, ben, ça vous l'avez déjà fait, ça vous l'avez déjà compris. Quoi. C'est, si vous êtes de loin, vous avez déjà crucifié la chair avec ses passions, souffrance et les enfers. J'ai pas besoin de vous redire exactement ce que vous avez fait parce que, effectivement, si on s'est fait baptiser, eh bien. Ça symbolise le fait d'être crucifié avec Christ, en fait, et de ressusciter avec lui par la suite, si on peut dire. Ça signifie, c'est comme le témoignage d'une bonne conscience envers Dieu qu'on décide d'avoir. Donc, c'est comme le témoignage de, voilà, maintenant j'arrête de marcher par la chair, je marche par l'esprit, quoi, grosso modo. Si on peut dire les choses comme ça. Donc normalement, les Galates, ça, ils le savent déjà. Enfin, tous les chrétiens, normalement, tous les chrétiens baptisés ont ça dans le cœur. C'est pourquoi je pense qu'on peut comprendre ce cependant du verset 24. Voilà, je vous ai dit tout ça. Cependant, le chrétien baptisé, voilà, il a crucifié la chair et les passions qui vont avec, et les désirs de la chair qui vont avec, voilà. Donc, voilà. Et après, verset 25, « Si nous vivons à la manifestation d'un souffle, à la manifestation d'un souffle aussi que nous avons su en ligne. » Ce qui est très intéressant, parce que là, finalement, on voit bien la distinction entre vivre par l'esprit, qui signifie finalement avoir reçu le Saint-Esprit, et avoir été justifié par la foi. Parce que par la foi, le juste vit éternellement. Eh bien, donc, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, le fait de marcher avec l'esprit. Qui dit là, à la manifestation d'un souffle, aussi que nous avancions en ligne. Voilà. C'est comme ça qu'il le dit ici. Et aujourd'hui, on a ce choix-là de marcher par la chair ou par l'esprit. Parce qu'on a toujours cette chair avec nous. Actuellement. Et quand on l'aura plus, un corps incorruptible à un moment donné, et bien, logiquement, ce corps incorruptible, il ira de pair avec l'esprit. Et du coup, on n'aura plus, à ma connaissance, à ma compréhension, de choix à faire comme on en a aujourd'hui à faire. Et puisqu'aujourd'hui, on a le choix de marcher par l'esprit ou marcher par la chair, et que Paul nous invite à marcher par l'esprit, eh bien, il nous dit à la manifestation d'un souffle aussi que nous avons sur un livre. Voilà, c'est une espèce de phrase de conclusion. Si on vit par l'esprit, par la foi, sous-entendu d'une certaine manière, qu'on marche aussi par l'esprit, tout simplement. C'est, c'est une manière de dire marcher par l'esprit avec de la logique. Enfin, ce qui ressemble à de la logique en tout cas. Et c'est marrant parce que, enfin marrant, il dit pas marcher, hein. Par l'esprit, verset 25, il dit avancer en ligne. Voilà, petite variation de vocabulaire intéressante. Et avancer en ligne, ça fait penser à un groupe. On est plusieurs, on avance en ligne ensemble. Et donc ça, là en l'occurrence le groupe, ça pourrait être qui? Ça pourrait être le croyant et le Saint-Esprit qui marchent en accord l'un avec l'autre, ensemble. Voilà. L'esprit vivifie et l'homme, lui, il suit les désirs de l'esprit qui le vivifie par lui. Voilà. Et donc au verset 26, il nous dit que nous ne devenions pas vides de gloire, les uns les autres s'appelant au devant, enviant les uns les autres. C'est intéressant ce fait de ne pas être vide de gloire comme ça. Donc ça semble aller de pair avec le fait de s'envier les uns les autres. C'est vrai. C'est si tu es quelqu'un de glorieux, en quoi est-ce que tu envierais quelqu'un d'autre, hein? Et pareillement, l'autre, s'il est glorieux, en quoi est-ce qu'il t'envierait toi? Donc, ne nous envions pas les uns les autres, mais considérons-nous nous-mêmes et en cela, marchons par celui qui nous a sauvés et qui est avec nous, à l'intérieur de nous. Considérons-nous, car nous sommes le temple du Seigneur. Donc, de la même manière qu'on considère le Seigneur, on considère son temple et on fait en sorte que le temple et celui qui l'habite correspondent bien, s'accordent bien. Qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de guerre. Donc, ici, voilà, s'envier les uns les autres, eh bien, c'est ce qui se rapproche d'un fruit de la chair. Verset 21, premier mot, envie. On a envie après meurtre, etc. Donc là, il nous dit, voilà, ne nous envions pas finalement les uns les autres, n'est-ce pas? Enfin, que nous ne devenions pas vides de gloire en s'enviant les uns les autres. Donc, ne nous envions pas les uns les autres. Ce qui est semblable à dire ne portons pas ce fruit de la chair. Ce qui revient à dire finalement, logiquement, ne marchons pas par la chair. Voilà. Comme ça, on n'aura pas ce fruit de la chair qui sortira de nous. Et du coup, on respectera mieux ce verset 26. Voilà. Donc ce verset 26, il va pointer particulièrement un fruit de la chair qui nous est demandé d'éviter. Voilà. Qui rejoint, je pense, le verset 15. Où il dit, voilà, si vous vous mordez les uns les autres, c'est pas bien, grosso modo. Il y a un problème, grosso modo. Où là, il pointait justement un fruit de la chair qui est une sorte de rivalité, de méchanceté finalement, hein, les uns envers les autres. Voilà, donc verset 15, verset 26, il pointe des problèmes entre les chrétiens. Verset 15, un problème. Enfin non, voilà. Donc là encore, c'est une autre manière, le verset 26, de nous dire de marcher par l'esprit, en ciblant un fruit de la chair, en disant ne pratique pas ce fruit de la chair, que n'y ait pas chez toi ce fruit de la chair. Voilà, et du coup, nous, comment on fait? On dit, il faut pas que je marche par la chair, il faut que je marche par l'esprit. Voilà. Donc c'est une autre manière de nous faire comprendre de comment. Enfin, pourquoi marcher par l'esprit, par exemple. Et c'est vrai que la gloire, être quelqu'un de glorieux, c'est quelque chose qui peut habiter même les chrétiens. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, je trouve. Parce que dans Romains, il dit, il parle en bien des personnes justement qui recherchent la gloire, la vie, je crois, et le bien, il me semble. Voilà. Donc je ne considère pas quelque chose, que ce soit quelque chose de mauvais que de vouloir être quelqu'un de glorieux. Voilà. Je pense que c'est même quelque chose qu'on devrait avoir en soi que de vouloir être glorieux. Voilà. Bien sûr, saintement, si je peux dire. Et on pourrait aussi ajouter que là, Paul, finalement, du verset 13 au verset 25, et même un peu avant, il a exposé quand même un grand savoir. On voit que c'est une personne forte, puissante, riche en connaissances, qui a une bonne maturité, n'est-ce pas, qui a un certain accomplissement. Donc, c'est quelqu'un que des chrétiens, en voyant tout ça, pourraient peut-être être amenés à envier. En mode, oh, wow, quelle connaissance, quelle puissance, quelle autorité. Voilà. Et donc, juste après avoir exposé son savoir, bah Paul, justement, voyant lui-même, je pense, toute cette puissance, cette autorité, cette connaissance qui sort de lui, dit aux autres, justement, indirectement, de ne pas l'envier. Voilà. Ne nous envions pas. Voilà. Ne m'enviez pas. Même si j'étale ma connaissance, enfin, même si j'expose une certaine quantité de connaissances, une certaine autorité, une certaine puissance, tout ça, une certaine expérience, voilà, tout ça, ne m'enviez pas pour autant. Voilà. Ne nous vidons pas de notre gloire en s'enviant les uns les autres, mais. Restons sains en fait, et ne nous envions pas les uns les autres. Voilà. Je pense qu'on peut voir ça aussi comme ça.